professeur, j'aimerais commencer par une question aussi simple qu'infinie. Infinie par l'abîme de réflexion que cette question peut ouvrir. Question donc particulièrement simple. Dieu, notre Dieu, est-il capable de faire un bâton avec un seul bout? Dieu est-il capable de faire un bâton avec un seul bout? On va dire, si Dieu est tout puissant, cela ne devrait pas être un problème pour lui. Si Dieu est effectivement tout puissant, ce n'est pas un simple morceau de bois qui devrait lui donner quelques fils à retordre. Il serait tentant de dire que si Dieu a besoin d'un bâton avec un seul bout, il pourra le faire bien volontiers. Car rien n'est impossible à Dieu, selon la formule de l'ange Gabriel au moment de l'Annonciation à Marie. Autrement dit, il est effectivement tentant de se dire que rien ne résiste à Dieu et que Dieu peut tout. Toutefois, cette formule traditionnelle, selon laquelle rien n'est impossible à Dieu, selon laquelle Dieu peut tout, pose tout de même des graves problèmes. Car si Dieu peut tout, alors il me semble que nous serions en droit de lui demander quelques explications sur des situations que nous sommes en droit de juger inacceptables. Pour reprendre la réflexion du philosophe Paul Ricoeur au sujet du mal, si Dieu est effectivement tout-puissant, alors nous disons qu'il est aussi amour. Comment se fait-il qu'il y ait autant de malheurs et de souffrances dans le monde, autant de ratés dans l'histoire? Et, pour le dire sur le ton de la badinerie, comment se fait-il, si Dieu est effectivement tout puissant, que Donald Trump soit en passe de devenir le 45e président des États-Unis d'Amérique? Dieu tout puissant, Dieu d'amour, persistance du mal, si les trois vont ensemble, c'est à une condition que j'estime fâcheuse, celle d'un Dieu pervers. Un Dieu qui serait à la fois amour et un Dieu qui, en même temps, laisserait le mal exercer son œuvre, pour autant que le mal soit personnifié, bien sûr. En tous les cas, un Dieu pervers, un Dieu qui dit aimer, mais d'un amour qui dévore dans ce cas. D'un amour semblable à cet amour avec lequel nous aimons les îles flottantes. Si Dieu aime, et qu'il peut tout, et qu'il n'empêche pas les atrocités, c'est qu'il n'aime pas d'un amour agapé, de cet amour dont la Bible dit qu'il prend soin de l'autre. Alors une explication a été trouvée par des théologiens. Les théologiens, de toute façon, trouvent des explications à tout. Des théologiens donc qui voulaient sauver la théologie chrétienne, qui ne peut pas faire l'impasse sur la loi de Dieu, tout en voulant préserver la majesté glorieuse du Dieu tout-puissant. Comment s'y prennent-ils? Eh bien, ils considèrent, à la suite du prophète Ésaïe, que les voies de Dieu sont largement supérieures mystère de la foi n'est pas seulement grand dans la conjoncée théologienne. Il présente un inconvénient majeur, car il laisse intacte l'incohérence qu'il y a entre la confession d'un Dieu d'amour et la présentation d'un Dieu tout puissant. Si Dieu est effectivement tout puissant, alors il peut régler les problèmes d'une manière plus positive, sans avoir recours à des solutions entachées d'injustice ou de terreur. Non seulement il est possible d'instaurer la paix sans avoir recours à des milliers de morts, mais il est possible de sauver l'humanité sans faire couler le sang de Jésus. Alors, notre tentative est de considérer que Dieu n'intervient pas dans la marche du monde, et cela de manière à laisser les êtres humains libres, totalement libres. Cette vision est assez proche de ce que le judaïsme nomme le retrait de Dieu. On est plus le tzimtzum. Dieu se retire pour laisser aux hommes et aux femmes l'espace nécessaire pour mener leur propre vie en toute liberté. Évidemment, si Dieu est puissant, il occupe tout l'espace. Et dans ce cas, nous ne sommes que des dieux. Donc, Dieu se retire pour laisser de la place et vous permettre de mener notre propre histoire. Dans une certaine mesure, cela revient à dire que Dieu se retire d'être Dieu. Dieu se prive. Pour le dire avec une analogie, nous pouvons dire que Dieu mène les élèves dans la cour de l'école, puis il se retire dans la classe pour continuer à s'occuper de ses affaires, laissant les enfants s'échapper. Mais qui laisserait quelqu'un courir un danger sans essayer d'intervenir si l'on a les moyens? Qui laisserait son enfant se mettre en danger sans essayer de le préserver, sans être sa conscience auxiliaire? Qui laisserait quelqu'un souffrir au prétexte que c'est sa liberté d'être? C'est une manière d'exister, de souffrir. Eh bien, dans ce cas, si Dieu peut éviter un drame, mais ne le veut pas, cela ne change rien à ce scandale d'un Dieu que l'on pourrait alors qualifier de sadique. Nous restons dans la même impasse. Et c'était aussi la conclusion du pasteur Wilfred Bonneau, qui s'intéressa à cette question au début du XXe siècle. Dans son discours aux croyants et aux athées, il poursuivit cette discussion en écrivant, je cite, « Alors, on nous objecte, Dieu ne veut pas expressément ce mal, il se bat à le permettre. » Oui, il le permet expressément, et cela convient au même. Donc c'est une manière pour Wilfred Bonneau de disqualifier cette explication des théologiens. Et Wilfred Bonneau continue, alors, dira-t-on que s'il ne permet pas, il essaie d'empêcher? C'est précisément l'hypothèse que je formule, écrit Wilfred Bonneau. Dieu s'efforce d'empêcher et ne réussit pas toujours. Dieu veut, mais ne peut pas. Voilà ce que nous révèlent bien des textes bibliques. Si nous prenons au sérieux l'affirmation que Dieu est amour, de cet amour agapé, bien garde la grâce. Dieu veut, mais ne peut pas, au sens où il ne peut pas toutes choses. C'est dans cette direction que nous conduit l'apôtre Paul ce matin, en s'adressant aux Corinthiens avec ses accents de la théologie de la faiblesse de Dieu. Au verset 25, nous l'avons entendu, la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Alors, évidemment, nous pourrions y voir une figure de style, une figure de rhétorique qui consiste à dire que, même à amoindri, asthénique, pour reprendre la racine grecque, Dieu reste quand même plus fort que nous. Même lorsqu'il se retient, Dieu l'emporte largement sur ce que nous sommes capables de faire. fixer, le faire souffrir et le mettre à mort serait une bonne manière d'envisager les relations humaines. Mais au sens où cela révèle quelque chose de ce que Dieu est et surtout de ce que Dieu ne peut pas. La croix a révélé à Paul que la puissance de Dieu n'est pas un pouvoir brutal. La puissance de Dieu ne s'exprime pas dans la capacité à exécuter sa propre volonté, à contrecarrer toute forme d'opposition, à écraser et à mater toute révolte. La croix de Jésus révèle le Dieu de Jésus-Christ dans toute sa faiblesse. Ce qui ne veut pas dire dans toute son impuissance, j'y reviendrai. Dieu est faible. Dieu est faible au regard de ce que nous tenons pour foi. Si nous sommes comme celles et ceux qui sont au pied de la croix et que nous attendons que Dieu se révèle pleinement en retirant les clous de la croix, en faisant en sorte que Jésus puisse descendre de cette croix et reprendre son activité normale, eh bien, nous sommes comme celles et ceux qui attendent de Dieu qu'il corrige les trajectoires des missiles que nous expédions à travers nos avions de chasse. Ou alors, nous sommes comme celles et ceux qui attendent de Dieu qu'il permette de couper les fils des engins explosifs des terroristes. Et bien, si nous attendons à ce que Dieu éteigne aussi notre cuisinière une fois que les légumes sont cuits, si nous attendons à ce que Dieu empêche que les voitures soient garées au double fil, eh bien, nous avons en fait une idée de Dieu qui reste enfermée dans une toute-puissance qui n'a rien de commun avec ce que nous enseigne cet épisode de la croix. La logique de la croix révèle un Dieu différent de nos fantasmes de toute-puissance. La logique de la croix a révélé à Paul que Dieu n'a pas à sa disposition la contrainte physique. Il ne peut empêcher personnellement ni la torture, ni les privations de liberté, ni les exécutions capitales, pour reprendre les sujets que traite l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Dont les membres d'ailleurs ne voient guère d'un bon œil qu'un adepte de la torture, de la peine de mort et quelqu'un qui récuse la Convention de Genève devienne le prochain locataire de la Maison Blanche à Washington. Alors je disais que si Dieu n'est pas tout puissant, il n'est pas non plus impuissant. Cela, l'apôtre Paul le rend manifeste également. Face à un monde qui se pense sage parce qu'il gère le mal par le mal, qui envisage que la gloire appartient au plus fort, Paul oppose ce qui est alors une folie au regard de cette sagesse mondaine. Cette folie, c'est le fait que Dieu a peur. Dieu a peur. Évidemment, cela semble tellement dérisoire, insignifiant. Dieu appelle les Juifs et les Grecs, les croyants et les non-croyants. Il les appelle pour changer le cours des choses, pour intervenir sur les situations qui méritent une attention particulière. Dieu appelle. C'est ainsi que le professeur John Capotucci a écrit un livre intitulé « La faiblesse de Dieu », une théologie de l'événement qui vient d'être édité tout récemment chez La Mort et Fidesse. Eh bien, c'est ainsi que ce professeur évoque le Dieu qui se révèle dans les textes bibliques, le Dieu qui appelle. C'est le Dieu de la promesse. Et qu'y a-t-il de plus stimulant, mais aussi de plus faible qu'une promesse? La promesse au moment d'un mariage n'est pas ce qu'il y a de plus stimulant, ce qui nous encourage à nous projeter dans l'avenir, mais ce n'est qu'une parole. mais cette onde plus fragile, elle peut ne pas être entendue. Un je t'aime est un peu plus stimulant. Et si l'autre ne l'entend pas, alors il ne peut pas en faire. Une promesse peut ne pas être reçue. Oui, on peut entendre une promesse, mais décider de n'en rien faire. Et cela, l'évangéliste Jean le rappelle au début de son évangile, quand il dit que la parole est aussi la lumière, qu'elle est venue dans le monde et que le monde ne l'a pas reçue. Mais ajoute-t-il, à ceux qui s'en saisissent, elle donne la faculté de devenir enfant de Dieu. Une promesse n'est pas une chose matérielle, et cela peut nous donner le sentiment qu'elle a donc peu de valeur. Mais ce sont justement dans les choses qui ne sont pas matérielles, les choses qui ne sont pas quelque chose, ce qui est sans substance que Dieu a choisi de s'exprimer. C'est ce que dit le verset 28. C'est par ce qui n'est pas. Et pour les hellénistes, c'est le fameux ta et anta, ce qui n'est pas, ce qui n'a pas d'essence, ce qui n'a pas de substance, ce qui n'est pas tangible comme cette planchette. Eh bien, c'est par cela que Dieu s'exprime. Cela vaut pour Dieu également. Il ne faudrait pas prendre pour une super substance au pouvoir surnaturel. John Taproot, ce professeur, a une formule à la tonalité délicieusement anglo-saxonne pour parler de Dieu. Il dit ceci, je cite, « Dieu appartient à l'air, à la mer, à l'esprit qui inspire et aspire, qui respire la justice. » Et si nous parlons de Dieu comme de ce qui désigne le processus de respiration de notre humanité, qu'y a-t-il de plus fragile que la respiration ? Il est tellement facile d'empêcher la respiration. Il est tellement facile d'étouffer le cœur. Mais qu'y a-t-il de plus nécessaire aussi que la respiration ? De plus impératif que la respiration pour l'être ? Le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu de l'appel, nous dit l'apôtre Paul. Ce Dieu qui appelle inlassablement. Ce Dieu qui suscite des libérateurs comme Moïse, qui suscite des juges comme Gédéon, qui suscite des prophètes comme Samuel et Nathan. C'est le Dieu qui appelle à la vie par des messagers comme Gabriel. C'est le Dieu qui appelle des disciples à cheminer sur les chemins de l'amour. C'est le Dieu qui appelle ceux qui ne sont pas sages selon la sagesse de la chair, ceux qui ne sont pas spécialement puissants ni forcément bien-nés. Dieu est un appel, et je dirais un appel d'air. Un appel d'air dans une histoire humaine qui sent parfois leur enfermer. Dieu, pourquoi ne pas en parler comme d'une respiration qui donne de l'oxygène à notre vie quotidienne ? Dieu est ce qui nous appelle à répondre aux injustices, dit l'apôtre Paul, à être responsable par conséquent face à